7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI. La parole est à ceux qui veulent entreprendre aujourd'hui. Avec le retour du coach Didier Acouetté, directeur d'Afrique Search, une société de conseil en ressources humaines. Bonjour Didier Acouetté.
Bonjour Emmanuel.
On est ravis de vous revoir dans le studio de 7 milliards de voisins. Didier Acouetté, le continent africain ne cesse de bouger. Les jeunes diplômés, moins jeunes, ont des idées. Mais c'est vrai, il manque d'accompagnement. Donc dans l'émission, on essaye avec vous de donner un avant-goût de ce que pourrait être un accompagnement de start-up. Alors, si vous avez, les voisins et les voisines, un projet pour le continent, quel que soit le secteur, que ce soit dans les services, dans l'agroalimentaire, la culture, le social, si vous butez sur certaines difficultés, Didier Acouetté vous écoute, vous conseille. Et aujourd'hui, on a appelé en renfort un financeur. Bonjour Pierre Carpentier.
Bonjour Emmanuel, bonjour.
Vous n'êtes pas banquier tout à fait. Hein. Vous êtes associé dans un fonds d'investissement dédié aux PME en Afrique qui s'appelle...
IEP pour investisseurs et partenaires.
Voilà, et donc vous gérez un portefeuille d'une quarantaine de PME africaines.
Exactement, dans lesquelles on a investi et auxquelles on croit.
Voilà, alors là vous ferez le rôle du banquier, hein, du financeur potentiel. On prévient tout de suite les auditeurs, vous n'êtes pas là pour... vous êtes là pour donner un avis, pas pour signer un chèque. On va peut-être ménager votre boîte mail. Et quant à vous les voisins et les voisines, vos projets pour passer dans l'émission, attention, hein, doivent être mûrement réfléchis, aboutis au moins sur le papier. Et puis bien sûr, si vous avez déjà lancé votre entreprise, c'est encore mieux, on peut en discuter de vos difficultés. 33 1 84 22 71 71, je vous rappelle le numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Didier Acouetté, il paraît que vous venez d'être élu entrepreneur africain de l'année il y a quelques jours à Paris. Qui vous avez soudoyé pour ça?
Ça m'a pas coûté bien cher. Business Angel, le cabinet Mazars et Forbes Afrique.
Ouais.
Bon, fait
ah oui,
cet honneur.
Ouais.
Ben, j'étais ravi. Je me suis dit, tiens.
Et alors, vous étiez en compétition avec qui, alors?
Oh là, il y avait des gros. Il y avait sous nous, vous savez, la grosse compagnie d'assurance. Il y avait un autre cabinet managéré. Enfin, on était six compétiteurs. Et je me croyais battu d'avance, et puis finalement, surprise du chef, je suis sorti du paquet surprise. J'ai pas eu un gros choc, mais peut-être l'année prochaine.
Ouais. Et un message, évidemment, que vous aviez envie de faire passer à ce moment-là, en tant qu'entrepreneur de l'année, entrepreneur africain de l'année.
Je pense que c'est un message de persévérance. Vous savez, ça fait bientôt 20 ans qu'on fait Afrique Search. Et bon, avec des jolis moments, des moments moins sympathiques, comme toute entreprise. Ça veut dire qu'il faut y croire jusqu'au bout.
Ouais, vous êtes toujours très discret sur vos difficultés, mais évidemment, ça aussi, c'est un message qu'on fait passer dans l'émission pour les jeunes qui ont envie de se lancer. Alors, on va passer maintenant au premier projet. Je vous rappelle notre numéro de téléphone. Le standard est ouvert, 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec Olivier à Abidjan. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Olivier, vous avez la trentaine. Vous êtes un crâne, comme on dit à Abidjan.
Oh, merci.
Un peu quand même. Vous êtes diplômé de l'Institut National Polytechnique Oufouette-Boigny à Yamoussoukro. Vous avez travaillé dans la banque comme business analyst. Vous avez un master en finance en France à l'EM Lyon. Vous avez eu plusieurs expériences professionnelles en France. Là, vous travaillez à Abidjan, hein, dans une société de conseil en investissement. Et vous avez été, pour votre projet dont on va parler, demi-finaliste au concours du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Alors, votre projet, il faudra bien sûr nous expliquer, il s'agit d'un projet de gestion dématérialisée de la petite monnaie. De quoi s'agit-il, Olivier?
On va dire GDPM ou gestion dématérialisée de petite monnaie. C'est un projet qui, généralement, traite de ce qu'on appelle l'inclusion financière, ou, pour le dire simplement, comment apporter la banque au secteur informel et permettre aux populations qui sont hors du système bancaire d'accéder au système de financement. On va dire que c'est une astuce pour intéresser les gens qui sont hors du système bancaire à la banque.
Mais il y a un problème de petite monnaie au départ?
Exact. En Afrique, les transactions se font en général avec la monnaie fiduciaire, des pièces et des monnaies.
On paye en cash, d'accord.
On paye en cash, exact. Donc, je vais donner un exemple simple. Je suis un client, j'ai 5000 francs CFA, j'achète un actif qui vaut environ 4700 francs. Pour les 300 francs, qu'on entend en général, il n'y a pas de monnaie, messieurs.
Mais il n'y a pas de monnaie, pourquoi? Parce que ça coûte cher de fabriquer des pièces pour les États?
Il n'y a pas de moyen parce que non seulement la pièce elle n'est pas suffisamment battue, sinon pire, on constate aussi en fait de la part de certains artisans des actes de vandalisme. La monnaie en pièce, elle est prise par des artisans, elle est fondue pour en faire des masques, par exemple, et elle est revendue à une valeur plus chère que la monnaie de base. Quoi.
D'accord, d'accord. Donc on manque de, les commerçants manquent de monnaie pour rendre la monnaie quand on achète des choses, c'est ça?
Oui. Ouais. Et même à ce sujet, il y a environ, on va dire, un an, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, donc la BCAO, a essayé de résoudre ce problème de manque de monnaie en émettant en fait de nouveaux billets, des coupures de 500 francs. Mais le problème n'a pas été résolu finalement.
Mmh. Alors qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous?
Si il y a un manque de monnaie pendant les transactions, l'idée ce serait de dématérialiser en fait cette petite monnaie, autrement dit, de l'enregistrer dans des systèmes électroniques de sorte que on n'ait pas forcément besoin d'elle quand on fait les transactions.
Alors attendez, je vais acheter des médicaments dans une pharmacie, le vendeur me dit ah ben je peux pas vous rendre complètement la monnaie, je vous dois encore temps, mais je les ai pas. Et là, au lieu de partir en n'ayant pas la totalité de ma petite monnaie, qu'est-ce que me dit le pharmacien à ce moment-là, le vendeur?
J'ai trois acteurs. J'ai un client, j'ai le pharmacien qui tient la caisse et j'ai mon entreprise qui est GDPM, on va dire. Donc, le client et le pharmacien ont des comptes chez moi. On suppose qu'ils ont déjà ouvert des comptes dans mon entreprise de gestion de petite monnaie. Le client qui a donné 5000 balles, il paye pour 4700, il lui reste 300 francs. Le pharmacien qui doit rendre les 300 francs, il les a pas. Donc ce qu'il propose finalement au client, c'est de dire, bah, écoute, on a un système électronique ici qui te permet, qui te permettra en fait de garder ta petite monnaie au cas où tu en auras besoin.
Donc moi, madame tout le monde, je conserve un compte chez le pharmacien avec de la petite monnaie qui s'accumule, qui au bout d'un moment, si je viens souvent chez ce pharmacien, devient importante. Mais l'idée, c'est que ça marche dans, chez plusieurs commerçants, bien évidemment, qu'à chaque fois qu'on doit me rendre de la petite monnaie qu'on ne me rend pas, je fais grossir mon porte-monnaie électronique, c'est bien ça?
Exact. Donc, derrière, on comprend bien qu'il y a un système d'épargne, finalement. D'où la notion de bancarisation des populations à faible revenu dont je parlais initialement.
En fait, c'est une notion de porte-monnaie électronique, comme ça existe déjà, Orange Monnaie, des choses comme ça. Sauf que là, ça se fait à partir des transactions chez les commerçants.
Orange Monnaie, c'est des dépôts volontaires. C'est-à-dire qu'on dit, allez, je dépose 5 000 francs, je dépose 4 000 francs, 8 000 francs, mais ici, on utilise une astuce, donc, en problème enfin, économique et monétaire, qu'on essaie de résoudre pour permettre en même temps aux gens de déposer. Donc, il y a un avantage à ce que les gens, pendant qu'ils déposent, ils sont aidés dans des difficultés de transactions d'achat et de vente qu'ils ont.
Bon, je vois Didier qui prend des notes, là, qui fronce les sourcils. Vous voulez poser des questions, Didier, à côté?
Bonjour, Olivier.
Bonjour, Didier.
Il me semble que j'étais d'ailleurs dans la salle quand vous avez reçu votre prix avec un gros chèque, il me semble, à la clé, non? À Abidjan.
Il dit qu'il n'a pas d'argent pour investir, justement, mais bon.
Oui, mais en fait, on va dire que, bon, d'accord, très bien, il y a le concours et après, il y a la mise en œuvre.
Bon, alors justement, je sais que vous avez payé une étude de marché hein, pour savoir si votre idée donc de gestion dématérialisée de la petite monnaie pouvait avoir de l'avenir, d'abord en Côte d'Ivoire et peut-être dans d'autres pays, puisque ce manque de petite monnaie généralisée, hein, Didier Côté, vous confirmez là-dessus.
C'est vrai.
Hein, que ça vous arrive vous aussi, on ne vous rend pas la monnaie.
On ne rend pas la monnaie, mais le commerçant l'arrondit en sa défaveur. C'est-à-dire, s'il me doit, par exemple, 70 francs CFA, il m'en donne 100. Ou alors, si je lui dois 100 et qu'il n'a pas de monnaie, il me donne les 100. Bon. Je trouve ça d'ailleurs assez sympathique.
Alors, sur le concept même de gestion dématérialisée de la petite monnaie, vous y croyez ou pas? Si finalement, le commerçant arrondit en votre faveur en tant que client.
Alors, le concept est intéressant. Il y a deux contraintes sur lesquelles je voudrais bien qu'Olivier nous éclaire. Est-ce que la nécessité d'ouvrir un compte chez vous, de vos deux clients, le pharmacien et le... ou le consommateur, n'est pas une contrainte supplémentaire? Pourquoi vous n'utilisez pas des systèmes existants? Vous avez parlé d'Orange Monnaie. Exemple, je viens chez les commerçants. Le commerçant me dit, je n'ai pas de monnaie, je n'ai pas 100 francs. Il me le transfère automatiquement sur via Orange Monnaie ou tous les opérateurs qui en font. C'est dématérialisé, mais vous, c'est avec l'opérateur éventuellement que vous créez en fait un système de collecte, quoi.
Que de passer des partenariats avec les différents commerçants.
En fait, c'est juste une question hein, pour savoir si c'est pas un peu contraignant votre système de tout remettre en place. Et puis ça suppose que le client aille chez le commerçant plusieurs fois de suite, quoi.
Oui. Il y a deux points. Bon, déjà, si éventuellement j'ai un partenariat en tant que développeur de projet, évidemment, je le prendrai parce que ça donnera la valeur à mon projet. Ça apportait des capitaux, même si c'est des capitaux en nature, donc des investissements. À ce stade, on va dire que je n'ai pas dit de nom, mais j'ai eu des opérateurs de télécom qui m'ont approché en me demandant où est-ce que j'en étais, en fait, par rapport à mon projet.
Ouais.
J'ai dit que bon, j'attendais des financements pour lancer. Un. Et puis le deuxième point, c'est que tout de suite, on ne peut pas utiliser un seul opérateur Orange Money, MTN Money ou etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un problème d'interopérabilité des opérateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si, par exemple, mon système, on va dire, je prends, il est X Money, je ne dirais pas de nom, je dirais X Money. Il faudrait que nécessairement le client qui a le manque de monnaie soit X Money pour pouvoir transacter. Si par exemple à la pharmacie j'ai établi un partenariat avec Orange Money ou MTN Money, le client qui a un manque de monnaie pour pouvoir transacter, il faudrait qu'il ait un compte également sur Orange Money. Alors que rien ne garantit que tous les clients qui viennent en fait soient sur les mêmes opérateurs. Donc en fait, c'est de là en fait vient la notion d'interopérabilité. Il faudrait que le client qui a un manque de monnaie puisse être enregistré, quel que soit l'opérateur sur lequel il soit enregistré. Alors que contrairement à GDPM qui est entièrement interopérable.
Pourquoi, à côté
oui, pourquoi vous ne créez pas cette plateforme d'interconnexion et d'interopérabilité entre les opérateurs? En fait, là où je veux en venir, le projet intéressant, hein, c'est simplement comment arriver à lever la contrainte d'ouverture de compte chez vous par le commerçant, par le consommateur, qui suppose la récurrence chez le consommateur, au lieu, vous, de bâtir en fait votre stratégie sur déjà des opérateurs existants qui ont déjà un million d'abonnés, 10 millions d'abonnés, etc. quoi. Je veux voir comment lever un obstacle.
C'est-à-dire que je suis vraiment ouvert à tous les partenariats. Comme je l'ai dit, c'est un partenariat, ça apporte un investissement en nature, et peut-être même en capitaux à un projet. Tout de suite, ça donne la valeur à mon projet qui est juste à ce stade en business plan, une idée.
Alors,
et aujourd'hui, je remercie une SRL. Mais par contre, ce que je voudrais dire, l'idée des consommateurs existants et ça fait appel à la concurrence, il est normal. Mais en même temps, ce qu'il faut noter, c'est que le marché en fait de la petite monnaie, sinon le marché de la monnaie en circulation hors du système bancaire, c'est un marché qui est très important en Afrique. Donc, la concurrence n'est pas un élément qui tuerait le projet. Je veux dire, dans tout secteur, il y a la concurrence existante. Il faut s'y mettre et pouvoir, comme on dit, le break even finalement.
Bon, ce qui est sûr, c'est que vous avez financé une étude de marché qui a révélé que 4 transactions sur 10 généraient de la petite monnaie manquante. Hein, donc il y a des vrais besoins, ça là-dessus on le met pas en doute. Vous avez une question à poser, et d'ailleurs on va peut-être la poser à Pierre Carpentier qui joue le rôle d'investisseur dans l'émission aujourd'hui de l'entreprise IEP, sur justement la question des investisseurs. Alors vous butez sur ce problème-là. De quoi s'agit-il exactement, Olivier ?
De quoi s'agit-il en fait ? Il s'agit de ce qu'on appelle dans notre métier le seed capital ou le capital d'amorçage. C'est-à-dire que pour les entrepreneurs qui n'ont pas les fonds provenant de leur famille ou des fonds provenant de leur richesse personnelle à investir pour démarrer le projet.
Mais le projet, il est évalué à peu près 1 million d'euros, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça, 720 millions de francs CFA.
Mais cependant, exact. Mais cependant, j'ai pris soin de structurer le projet en plusieurs phases. Il y a une phase que j'appelle une phase de test, qui ne demande pas autant d'investissement. Donc, on va dire, il est 1 million d'euros environ, on déploie dans le tout à Abidjan et la Côte d'Ivoire 600 terminaux.
Ouais.
Mais par contre, on peut juste faire une phase de test.
Mais ce que je ne comprends pas bien, Olivier, terminaux. C'est que vous n'avez pas une bille à mettre dans ce projet. Vous avez un super projet, vous avez gagné des concours, vous n'avez rien à mettre. Vous êtes diplômé de Yamoussoukro, vous avez un MBA, le M Lyon, etc. Vous n'avez pas mis d'argent de côté.
C'est très évident ce que vous dites, mais
vous savez, on pose beaucoup de questions personnelles chez les banquiers. En général, votre état de santé.
J'en ai fait l'expérience.
Ouais, ben on va laisser la parole à Pierre Carpentier. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet? Et puis le fait que, effectivement, il bute sur un problème de fond, c'est qu'il cherche des financeurs à 100%. Lui, il a pas de billes à mettre dans son propre projet.
On demande pas à Olivier de nous dire forcément combien, mais quelque chose. Ça veut dire que si pour un investisseur qui là va prendre du risque sur une opération très innovante, La meilleure garantie que le promoteur y croit, c'est qu'il y met quelque chose à l'échelle de ce qu'il peut, à l'échelle de la profondeur de sa poche. Enfin, qu'il dise, ok, moi aussi, ma petite épargne, ce que j'ai mis de côté, je la mobilise.
Et là, c'est quoi, c'est un ressort psychologique là finalement dont vous parlez ou pas tant que ça?
Mais presque effectivement, parce qu'après tout, si on dit c'est nécessairement 50-50, si le promoteur a pas, il a pas.
Mais ce qui est important, c'est pas du tout évident pour tous les auditeurs, ça.
Oui, mettre de l'argent à eux. Parfois, on a des porteurs de projets qui arrivent à mobiliser l'argent de tiers proches, de la famille, des amis, ça a de la valeur aussi. C'est la capacité à mobiliser des gens qu'ils connaissent depuis longtemps et qui disent mais moi on lui fait confiance, à chaque fois qu'on a travaillé ensemble, fait les choses, il a toujours tenu ses engagements. L'investisseur il connaît pas le promoteur, on a plutôt un a priori positif. Bien sûr, on trouve que les gens sont sympathiques, Olivier a l'air d'être excellent dans son propos, mais faut quelques gages supplémentaires. Après le projet se déroule et on constate qu'effectivement on a bien fait de lui faire confiance, mais c'est bien dès le début de se donner quelques gages qu'on veut aller jusqu'au bout ensemble.
Didier à côté.
Alors effectivement, comme on le dit souvent dans l'émission, un banquier, c'est pas un bon samaritain. Il prend l'argent d'autres et il doit pouvoir rendre cet argent. Et c'est vrai, un entrepreneur qui ne met pas de billes, ça ne rassure pas forcément le financier parce qu'il se dit, peut-être qu'il croit pas tant que ça à son projet. Ou alors, lorsqu'une banque demande une garantie personnelle, c'est vrai, on a tous horreur de ça dans les petites entreprises. En gros, le banquier dit, si demain il y a un problème, j'ai pas envie qu'en tant qu'entrepreneur, tu me dises, bon, ça n'a pas marché, t'as été sympa, t'as mis tes billes, ciao. Mmh. Mais quand il dit, je viens récupérer ta maison, je viens récupérer ta voiture, tu te débrouilles pour trouver des solutions avant qu'ils ne viennent jusqu'à ces extrêmes.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez malgré tout conseiller à Olivier qui veut savoir, en gros, la stratégie de communication à adopter pour donner envie aux investisseurs dès le premier tour de table, C'est bien ça votre question, Olivier, dans le fond.
C'est bien ça, dans le fond.
Mais Olivier a raison quand il dit qu'effectivement, là, ça relève du capital d'amorçage ou du capital risque. C'est un projet innovant. Il est innovant sur le plan du marché. Vous proposez quelque chose de nouveau, innovant sur le plan technologique, il va falloir quand même faire quelques développements. Donc il faut quand même trouver un investisseur qui est prêt à prendre pas mal de risques quand même, faut reconnaître. Il y a des investisseurs qui savent faire ça. Mais c'est des gens qui font des investissements en se disant, ok, de temps en temps dedans, il y aura de la casse parce que tout va pas forcément marcher, mais de temps en temps il y aura le Google de l'Afrique qu'on va trouver au milieu de tout ça. C'est peut-être le projet d'Olivier aujourd'hui, mais je crois que pour arriver à convaincre aujourd'hui un investisseur, d'abord, il faut évidemment avoir documenté au maximum, mais peut-être faire un premier bout de chemin aussi loin que vous pouvez avec le petit peu d'argent que vous pouvez lever aujourd'hui, faire une première plateforme pilote, faire un premier test avec 2-3 magasins et même 15 clients, puis dire tiens regardez ça a l'air de fonctionner. Je crois qu'avec ça, au-delà du document, du papier, du business plan que vous avez sûrement, ça pourrait vraiment convaincre un investisseur.
Vous dites à côté.
Non, effectivement, c'est une très bonne approche que Pierre suggère. La deuxième proposition que je voulais lui faire, comme votre projet a un contenu relativement technologique, ce que j'allais vous proposer, c'est de le faire éventuellement incuber par une entreprise qui est dans le domaine des technologies. C'est-à-dire une entreprise qui y croit, qui celle qui peut avoir du business derrière en développant vos terminaux, etc., et qui va dire, je vais prendre un exemple bête, imaginons l'entreprise Telecom Partners qui dit, moi ces terminaux m'intéressent dans l'avenir, je suis prêt à vous incuber chez moi pendant 6 mois ou 1 an, à mettre par exemple $100,000 sur la table pour vous permettre de faire cette phase expérimentale dont parlait Pierre. Mmh. Et donc du coup, c'est pas votre argent, mais c'est votre partenaire stratégique de premier niveau qui met cet argent
pour cette phase expérimentale
et vous aide à faire cette première phase. Et après, c'est plus facile d'aller lever de l'argent parce que vous aurez fait cette première phase avec un partenaire stratégique, quoi.
Olivier, le temps passe trop vite. Il faut qu'on rende l'antenne bientôt pour le flash sur RFI. Évidemment, Olivier, on a envie d'avoir de vos nouvelles, Vous nous tenez au courant quand vous démarrez une première phase. Et je rappelle la nature de votre projet qui est très innovant. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs déjà en Afrique de l'Est ou pas. Je ne suis pas certaine, même si ce sont les porteurs du porte-monnaie électronique, du paiement dématérialisé, etc. Votre projet, c'est une gestion dématérialisée de cette petite monnaie qui est sans cesse manquante chez les commerçants sur le continent africain. Merci beaucoup Olivier, 33 1 84 22 71 71. Avant le flash, on a le temps d'accueillir Dany à Kinshasa. Bonjour Dany.
Bonjour Michael.
Dany, on va vous reprendre bien sûr au téléphone juste après le flash. Alors vous, c'est un projet culturel, un festival de rire ambulant à Kinshasa dans les écoles. Au départ, c'était un projet plutôt social, plutôt humanitaire. Ça marche très bien. Vous avez envie d'en faire un projet à but lucratif, c'est bien ça Dany?
Oui, Emmanuel, c'est vraiment ça. C'est un projet de rire que nous avons lancé dans une des districts.
Il y a DJ à côté déjà qui commence à se marrer dans le studio.
Gagner de l'argent à rien, c'est fabuleux.
Dany, on vous reprend au téléphone juste après le flash. 33 1 84 22 71 71. Pierre Carpentier, Didier Acouetté, la winning team dans le studio de 7 milliards de voisins. Rendez-vous dans 3 minutes juste après le flash sur RFI.